Nous allons maintenant, si vous voulez bien, passer au troisième exposé sur les Garrigues, espace ou territoire, avec M. Chevalier, qui est maître de conférence à l'université Paul Valéry, laboratoire acteurs ressources territoire dans le développement.
Oui, donc bonjour. Donc, juste avant de commencer et de peut-être de donner quelques pistes de réflexion sur ces questions de est-ce que les Garrigues sont véritablement un territoire, puisqu'on entend parler beaucoup de territoire de projet, projet de territoire, ce sont des notions un petit peu à la mode. Juste pour vous présenter en deux mots donc le laboratoire, qui est un laboratoire CNRS, Université Montpellier 3, et qui ne travaille pas spécifiquement, bien sûr, sur ces territoires des Garrigues, mais qui travaille de manière générale plus sur la question de la notion de territoire, de l'émergence de la question territoriale aujourd'hui, dans le cadre des politiques et dans le cadre du développement local. Autrement dit, et je vais faire un premier constat, pourquoi on parle autant de territoire ? On va revenir rapidement sur ce terme de territoire. C'est peut-être aujourd'hui à la fois l'élément majeur d'une grande partie des politiques publiques, et on va le voir, mais c'est surtout aussi, je dirais depuis une trentaine d'années, la contrepartie d'un mécanisme socio-économique dont on nous parle depuis de nombreuses années, de la mondialisation, qui serait de manière générale avec deux mécanismes ou deux processus. D'un côté, une mondialisation, une généralisation des relations interspatiales, interterritoriales, entre guillemets. On va le voir, l'espace des Garrigues ou le territoire des Garrigues n'échappe pas à cette question des interrelations à plusieurs échelles. À l'échelle, on va voir micro-régionale, entre des pôles urbains, etc., mais également à l'échelle nationale, voire internationale, en fonction des critères que l'on peut utiliser. Et parallèlement à cette logique-là, on a à la fois, alors, soit un repli, mais qui n'est pas forcément un repli au sens péjoratif du terme, mais une reconnaissance d'une spécificité territoriale qui est un petit peu, finalement, le rapport entre le global et le local. C'est-à-dire cette volonté de voir émerger une réalité, je dirais territoriale au sens large et au sens complexe, puisque qu'est-ce que c'est que le territoire ? On va voir, c'est pas aussi facile que ça à identifier, mais une contre-réaction à un mécanisme qui est un mécanisme global que l'on voit apparaître dans tous les domaines, et les sciences sociales l'ont déjà étudié, que ce soit en sociologie, les replis ou l'idée identitaire. On n'a qu'à regarder ce qui s'était passé déjà dans les années 70 sur le retour paysan de manière générale, mais qu'on peut avoir par la suite dans d'autres types d'approches ethnologiques, économiques. Les filières de qualité, les filières de terroir sont des éléments justement d'ancrage et de réponse à cette logique du local. Mais avec, à chaque fois, on va le voir, on n'est pas dans un débat stérile de global-local. Il ne s'agit pas de proposer un territoire de Garrigues refermé sur lui-même, mais de voir comment le local, comment l'ancrage au territoire est un des éléments d'intégration socio-économique des espaces. C'est-à-dire qu'on est loin du mécanisme communautaire tel qu'on pouvait l'avoir en France dans les années 70, sur le Larzac par exemple, mais on est beaucoup plus sur une dimension où le territoire et le local va s'interrelier sur un système qui est un système global. Je vais parler juste rapidement, faire un point sur l'agriculture, et notamment les agricultures de terroir ou les agricultures de qualité sont véritablement un ancrage territorial fort, local, mais en même temps sont des systèmes économiques qui s'insèrent dans des démarches ou des marchés beaucoup plus larges. Alors pour commencer à aborder la question, juste rapidement, deux définitions, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire d'épistémologie de manière générale de la géographie. C'est peut faire peut-être la différence entre deux notions fondamentales, et j'en rajouterai une troisième, on vient de parler de milieu, qui pourrait faire partie de ces deux dimensions. Alors, la première dimension, c'est ce qu'on appelle bien sûr l'espace. Tout est espace géographique. L'espace des Garrigues existe. C'est un espace qui peut être mesuré sur une échelle, qui est une échelle appropriée, un espace métrique. Qui est finalement une délimitation d'un processus spatial. Mais à côté de cette question de l'espace géographique, on a surtout une autre dimension, ce qu'on appelle donc la question du territoire, qui est à la fois un espace support, mais qui va faire rentrer une complexité d'éléments, et notamment une approche, je dirais, socio-économique, culturelle, etc., avec une dimension extrêmement importante qui est la dimension de la représentation et de l'appropriation à l'espace. De manière générale, pour faire simple, ce territoire, qu'on va essayer d'identifier, que les politiques vont essayer de valoriser par le biais de chartes, de politiques, de PNR, de pays, enfin, etc. C'est un rapport, bien évidemment, entre un espace support, espace d'un certain élément, de paysage, de biodiversité, etc. Mais c'est également un espace construit, vécu par des sociétés, par des individus qui, de manière générale, s'identifient à ce propre espace. Alors pour faire simple, j'ai pris donc les deux définitions d'un dictionnaire de la géographie classique de Pierre Georges, mais sur le territoire ou la question territoriale, et mon propos va se structurer en fonction de ces cinq points, et de vérifier finalement le territoire de Garrigues, comment il se positionne par rapport à ces questions-là. On pourrait dire tout d'abord que le territoire, la question du territoire, c'est l'existence de ressources, au sens très large du terme. Vous allez voir, quand j'appelle la question de ressources, je ne travaille pas dans un système qui soit très écologique ou sociologique, etc. Donc c'est une dimension très large. Donc l'existence de ressources qui pourraient être communes, reconnues, valorisées et exploitées, au sens très large du terme. On a parlé des ressources qui peuvent être des ressources de type environnemental, on va le voir, l'exploitation de la forêt dans l'histoire, l'exploitation de l'espace support pour une agriculture, etc. Mais on pourrait prendre également des ressources culturelles. On n'a jamais eu autant de musées ethnologiques, ethnographiques, etc., qui sont une dimension aussi d'une ressource à valoriser. Des ressources sociales, les langues régionales, les histoires locales. On réinvente des légendes locales, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur un acquis qui est un acquis social. Le deuxième point, pour qu'il y ait territoire, il faut que ces ressources soient bien sûr reconnues, mais qu'elles soient appropriées par des acteurs, c'est-à-dire que les politiques, les associations, les individus, les entreprises sachent utiliser ces ressources pour en faire alors de la plus-value, ou en tout cas une activité particulière. Le troisième point, pour qu'il y ait cette question de territoire, et je dirais que c'est un des points peut-être des plus forts, c'est qu'il faut qu'il y ait l'idée d'une identification sociale et culturelle. Autrement dit, les gens qui vivent, les gens qui travaillent, les gens qui gèrent, et finalement la capacité à s'identifier à un territoire. Et je dirais là, avec, on va le voir, une particularité, c'est que l'identification au territoire peut être bien sûr locale et endogène. Je vis sur un territoire, je m'identifie au territoire des Garrigues, je m'identifie au territoire d'Auvergne, je m'identifie à une région particulière en tant que résident, en tant qu'entreprise, etc. Mais également pour des acteurs extérieurs. On va voir le rôle des extérieurs, des touristes, des populations migrantes, etc. sur la reconnaissance et l'appropriation du territoire. Aller demander à quelqu'un qui vit dans le Luberon s'il ne s'identifie pas au territoire du Luberon. Et même quand on parle du Luberon, ça évoque un certain nombre d'éléments d'identification, de représentation pour tout un chacun qui n'est pas forcément résident sur le même territoire. Quatrième point, l'existence de relations qui peuvent être des relations sociales, des relations économiques et culturelles, donc économiques traditionnelles, marchandes, c'est-à-dire un système de relations à l'intérieur de ce territoire, mais je dirais un système de relations interconnectées avec des mécanismes globaux, c'est-à-dire des mécanismes économiques globaux. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être à la base et qui est aussi souvent le point le plus important pour, je dirais, la qualification, alors pas pour la reconnaissance du territoire, le territoire peut exister véritablement, mais la qualification politique ou juridique, c'est finalement l'acceptation d'un cadre commun de gestion. C'est là toute la construction, le débat sur la construction de ce qu'on appelle un projet de territoire, par exemple. C'est-à-dire, finalement, pouvoir mettre sur un cadre commun un certain nombre d'éléments qui font territoire. Alors, si on revient plus particulièrement sur le territoire des Garrigues, finalement, qu'est-ce que c'est que le territoire des Garrigues en termes de ressources? Ce qu'on appellerait des ressources communes à valoriser ou à exploiter. Alors, pour faire simple, j'ai fait référence à deux concept de ce qu'on appelle l'économie de la proximité, qui sont la question de la ressource, qu'elle soit générique, et la ressource qui soit de type spécifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ressource générique? Une ressource générique est un potentiel, mais qu'on pourrait transférer n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, mais qui peut exister ailleurs, et qui peut être source de développement. C'est pas parce qu'on a de la ressource que de la ressource spécifique qu'on ne peut pas faire du développement. Alors parmi les ressources spécifiques, les ressources génériques, je dirais qu'il y en a, alors j'en ai mis quelques-unes, mais on pourrait en redire, en détailler bien sûr beaucoup d'autres. Je dirais que la première, et ça c'est une évidence, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est quoi qu'il arrive une proximité urbaine. C'est-à-dire que ce territoire des Garrigues, il doit son existence, on va voir tout à l'heure, son développement et les pistes de réflexion que l'on peut avoir ne peuvent pas se faire sans la liaison avec le monde urbain. On va le voir, il y a des possibilités, bien sûr, de développement, mais je le dis de suite, mais on pourra y revenir, je pense qu'il serait quand même absurde de discuter ou de penser le développement du territoire des Garrigues en omettant le fait que c'est un territoire sous forte domination urbaine, qui en fait à la fois sa richesse, qui crée des contraintes, ça, il faut pas l'oublier, mais de manière générale, c'est peut-être un des atouts majeurs. Vous n'êtes pas au milieu d'un territoire au fin fond de la steppe ou de la taïga russe. Non, on a des dynamiques juste à côté, et ces dynamiques créent de la plus-value et de la richesse, elles créent aussi des contraintes, on va voir, des conflits d'usage, elles peuvent dégrader, on vient de le voir, mais on peut voir d'autres types d'approches, mais avant tout, c'est une proximité qui peut être un élément de développement majeur. Le deuxième point, bien sûr, c'est la bonne accessibilité, on le verra, là on est plutôt dans une dimension d'aménagement, la ressource, bien sûr, ne peut se développer et ne peut être exploité qu'en termes, bien sûr, de bonne accessibilité. Et je dirais un troisième point, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est la question du foncier, qui est aujourd'hui au cœur du débat sur le développement territorial. Alors quand je dis un foncier disponible, je dirais même qu'il est de plus en plus sollicité aujourd'hui. Un foncier en termes d'espace support de production, par exemple, même si on va voir l'agriculture a connu une certaine récession, on a un problème autre pour ce type d'activité, mais je dirais que c'est aussi un support d'identité, un support de spéculation, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un foncier aujourd'hui qui est utilisé pour énormément d'approches, mais c'est une ressource et qui n'est pas forcément une ressource aussi inépuisable et donc qui mérite d'être gérée. Et à côté de ces ressources, pour faire simple, donc les ressources spécifiques, qui seraient des ressources beaucoup plus localisées. Alors bien sûr, un potentiel écologique commun, je ne vais pas y revenir, de toute façon je serais incapable de rentrer dans les détails de cette question écologique, mais de manière générale, on a là quelque chose qui peut être le fil conducteur, bien sûr, pour le développement des territoires, on l'a vu. Tout à l'heure, on parle de paysage, on parle de milieu, etc. Donc c'est un des éléments, bien sûr, majeurs, qui peut être le catalyseur d'un projet de territoire, qui peut être à la base du développement, mais qui n'est pas, bien sûr, unique. Je dirais un paysage qui est varié et qui est hérité, là aussi, de l'anthropisation, de l'histoire agricole, qui est construit et façonné par l'homme. Je ne vais pas refaire le détail sur l'activité agricole ou agroforestière, qui est un des éléments explicatifs de ce type de paysage, et ensuite et surtout une forte imbrication entre patrimoine naturel et patrimoine humain. On l'a vu par la répartition de l'ensemble des villages, par exemple, qui est très diffus sur le territoire, et le rapport qu'entretenaient ces collectivités, ces espaces humains, avec leur propre patrimoine en termes d'exploitation agricole, forestière, etc. Donc, deuxième point, finalement, ces ressources qui existent, comment elles sont appropriées aujourd'hui, puisque le territoire des Garrigues n'a pas besoin d'attendre une reconnaissance, je dirais, officielle ou politique pour exister en tant que territoire, puisqu'on a déjà de la valorisation à plusieurs échelles qui méritent bien sûr d'être canalisées. Donc on a, de manière générale, je dirais, une forte, je dirais même presque une très forte appropriation des ressources génériques. Pour ne pas dire l'essentiel de l'appropriation concerne ces ressources qui pourraient être transférables. Je vous rappelle la proximité urbaine, etc. Et notamment ce qu'on appellerait de la consommation foncière, mais comme un espace support. Ce n'est pas encore un espace de type identitaire, mais un espace support. Donc rapidement, la résidence avec la question de l'étalement urbain, une trentaine d'années d'étalement urbain avec fonction résidentielle qui se développe. Mais quand je dis espace support, c'est-à-dire que ce mécanisme-là est commandé en général par des lieux de décision extérieurs, c'est la ville qui commande ce développement de l'étalement urbain. Même si les collectivités ont bien sûr maîtrise par le biais de documents de planification, c'est un mécanisme qui est bien sûr lié à quelque chose d'extérieur. Mais quelque chose d'extérieur qui est nécessaire bien sûr pour le développement. On verra sur les pistes de réflexion. Je dirais les activités agricoles de manière générale. Donc activités agricoles aujourd'hui bien sûr en déprise et en forte déprise. Mais là, ce sont les activités, je dirais, qui pourraient être, bien sûr, qui sont liées au milieu dans lequel elles se situent, mais qui ne sont pas forcément de type territorialisé. Il en reste quelques-unes, mais qui ne sont pas forcément identifiées au territoire. Alors, j'avais dit activités pastorales, forestières, activités commerciales, artisanales. On parlait tout à l'heure de la question de l'emploi, ben, une des grandes sources de l'emploi, du développement et de l'induction vient de la consommation, et la consommation reste une consommation urbaine, et notamment en périphérie des grands pôles. Et je dirais ensuite du développement résidentiel périurbain de type aterritorial. Alors aterritorial, c'est dans un premier temps, puisque les études sociologiques ont montré qu'il y a une inversion largement aujourd'hui, aterritorial, c'est plutôt dans les années 70, ce développement du pavillonnaire et du résidentiel, où le foncier n'était perçu que comme une valeur, enfin comme un espace support de la construction. Autrement dit, c'est des phénomènes qu'on appelait les phénomènes d'expulsion urbaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'attachement au territoire de construction ou de localisation, mais c'est plutôt un phénomène d'expulsion d'un mécanisme urbain. Aujourd'hui, les dernières études sociologiques qui avaient été menées dans le Nord Montpellierain et d'ailleurs dans une grande partie du territoire nîmois ont montré que les facteurs de localisation résidentielle ne sont pas forcément uniquement liés à la question de la disponibilité du foncier. Il y a aussi la question de la recherche d'une qualité de vie, etc., qui commence à être pris en compte. Donc on verra, il y a une inversion. Et ensuite, je dirais une appropriation des ressources spécifiques et significatives, mais peut-être malheureusement pas forcément poussé à l'extrême, ou en tout cas pas autant valorisé que cela pourrait être. Donc je dirais les garrigues, espaces verts aux portes de deux agglomérations, des activités de pratique sportive, éducative, environnementale, et c'est peut-être là aussi la clé, une des clés des projets de développement. Je dirais, alors, en termes de corridor, c'est bien sûr la question de l'échelle se repose sur la question du corridor, mais enfin, les garrigues d'intérêt écologique général, et je dirais à toutes les échelles, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à l'échelle ni du territoire d'une garrigue, ni du département du Gard ou de l'Hérault, ni de la région Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire qu'on a quelque chose là qui dépasse largement l'échelle à laquelle on se situe. Et on verra que pour le tourisme, par exemple sur l'espace vert, bien sûr au port des deux agglomérations, on peut parler du loisir, mais on peut parler du tourisme. Et là aussi, il y a peut-être un enjeu à développer des activités, mais sur des échelles beaucoup plus larges. Un paysage consommé et valorisé, donc ce qu'on appelle le résidentiel territorial, c'est-à-dire un choix de localisation qui est un choix volontaire de migration dans un espace particulier. Et je ferai juste référence à des études qui avaient été menées dans les années 80-90, donc par le laboratoire auquel j'appartiens, notamment les études de, je ne sais pas, ça intéresse certains, de Joseph Catanzano ou même d'Alain Berger, retour, enfin, il y avait un ouvrage qui avait été appelé « Retour vers l'arrière-pays », où on avait ces dimensions sociologiques de migration résidentielle dans des espaces choisis. Et donc ils avaient fait tout un travail de savoir quels étaient les facteurs de migration dans des espaces d'arrière-pays, de garrigues jusqu'aux Cévennes. Et ils avaient déjà montré quelque chose qui aujourd'hui est bien affirmé, c'est que petit à petit, le choix résidentiel devient primordial dans l'implantation des populations. Mais quand je dis choix résidentiel, pas uniquement en termes de support d'espace, mais en termes de qualité de vie, etc. Et d'ailleurs, dans ces études qui avaient été menées, il y avait tout un travail sur l'économie résidentielle qui s'était développée à partir des migrations. Et d'ailleurs, le territoire des garrigues n'échappe pas à cette logique de l'inversion. Pour faire simple, on a aujourd'hui beaucoup de ménages qui s'installent pour des raisons résidentielles et qui ensuite vont mettre en place une logique économique de création d'activités, d'artisanat, etc., qui peuvent être un des éléments de revitalisation du tissu économique local. Et je dirais donc ensuite une histoire de la culture locale, support de nouvelles pratiques sociales. Alors là aussi, des légendes, des musées locaux, on n'a jamais eu autant de patrimoine valorisé, je dirais même parfois de la réorganisation ou même de la réinvention aussi de culture locale qui fait partie de la reconnaissance du territoire. Autre point, donc je dirais l'identification sociale et culturelle qui est en construction et qui passe essentiellement, alors j'ai identifié trois points, mais on pourrait bien sûr en dire d'autres et on verra comment on peut arriver à construire et donner du lien à tous ces éléments-là. C'est tout d'abord une identification des productions au territoire. Alors je dirais, c'est très à la mode, l'agriculture de qualité, l'agriculture de terroir, mais elle concerne encore essentiellement sur le territoire que la question de la viticulture. Et de manière générale, elle va se heurter, on va le voir, alors c'est le cas pour la viticulture, mais c'est le cas pour les autres productions, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une surmultiplication de labels, surmultiplication de réorganisations agricoles sur des dimensions territoriales. Donc que faire d'un patrimoine qui peut être un élément de développement d'une activité dite territorialisée, qui bien sûr, souvent une activité économique de niche, mais qui permet de revaloriser un certain nombre de produits et surtout de les intégrer dans d'autres activités, notamment le tourisme. je dirais, des actions de patrimonialisation qui existent, notamment par la valorisation de l'architecture, des savoir-faire locaux. Je ne vais pas vous faire tout le listing. À ce propos, il y a un travail d'une étudiante du Master 2, donc qui était aux écologistes de Lezière, de Manon Pierrel, qui avait déjà identifié un certain nombre d'éléments, que ce soit d'associations, de valorisation, qui peut être intéressant, si certains sont intéressés, peut-être prendre contact directement avec elle. Donc on voit que ces actions de patrimonialisation, bien sûr, existent. La particularité, c'est qu'elles se font souvent sur des échelles, qui sont des échelles soit très locales, soit éventuellement intercommunales, mais rarement passées dans une dimension transversale du territoire. Et je dirais une identification sociale à l'espace de résidence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les travaux notamment d'Alain Berger sur l'inversion des logiques résidentielles, l'appropriation spatiale. Alors, finalement, il existe aussi dans ce territoire des relations, donc c'est le quatrième point de ma question du territoire, des relations sociales, économiques, culturelles, qui sont déjà un atout, mais qui, je dirais, sont quand même extrêmement atomisées. C'est-à-dire qu'en termes de gestion, on n'est pas sur un mécanisme qui est un mécanisme transversal, mais on est sur des, je dirais, des mécanismes sectoriels et verticaux, plutôt que des mécanismes horizontaux. Donc la présence d'un tissu associatif dense, là aussi, vous avez énormément d'associations sur ce type de territoire, sans qu'il y ait pour autant, je dirais, une approche, une vision globale sur le phénomène associatif du territoire, qui est à la fois une richesse, on en a parlé notamment dans le cadre de l'Atlas, parce que ce sont des individus, ce sont une force de proposition et de connaissance qui est majeure, mais peut-être s'appuyer sur cet élément-là, qui est un des éléments majeurs de l'explication et de l'organisation du territoire. Des réseaux marchands traditionnels, alors les réseaux marchands traditionnels, qui concernent essentiellement, bien sûr, les périphéries urbaines, de manière générale, c'est-à-dire les systèmes économiques traditionnels, marchands, commerciaux, de transport, qui sont des éléments, bien évidemment, qui sont souvent perçus comme des éléments, je dirais, négatifs, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont créer un certain nombre d'éléments de problématiques, de conflits d'usage, etc., mais qui sont nécessaires et qui font que le territoire vit et est inséré dans un système économique marchand, après à voir comment on peut les maîtriser et à voir comment s'en servir pour permettre le développement du territoire. Des réseaux de consommation urbaine potentiellement importants. Là aussi, ce que je disais en introduction sur ce phénomène du local qui vient s'organiser en fonction du global, c'est-à-dire pas forcément un repli, mais une réorganisation sur le système local. Là aussi, il y a un potentiel de consommation de proximité, on le verra, en termes de filières courtes, en termes de services marchands de loisirs, sur un système qui est un système de proximité. À une période où on loue la question du développement local et du local dans la consommation, il y a là aussi des éléments, bien sûr, qui existent, essentiellement pour l'instant dans le domaine de loisirs, qui pourraient éventuellement être développés. Et enfin, des rapports entre agriculture et tourisme, bien sûr, qui sont significatifs, mais qui méritent, bien sûr, d'être valorisés. Le dernier point, c'est le cadre de gestion de ce type de territoire. Alors, de manière globale, et c'est un petit peu les travers que l'on peut avoir sur la construction des territoires, c'est-à-dire qu'on a accumulé, on a sédimenté, bien sûr, les héritages des diverses de la législation en matière d'organisation, de décentralisation et de gestion des territoires. Ce territoire n'est pas une exception, puisque de manière générale, c'est un des éléments majeurs, et d'ailleurs, il y a une réflexion sur la réorganisation des institutions en France qui n'est pas sur cette logique-là, mais qui pose la question aujourd'hui de la gouvernance de ce type de territoire. Alors juste pour deux points, alors j'ai mis un espace absent du schéma régional d'aménagement et de développement durable. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, il existe, mais il est dans un système atomisé entre deux modèles urbains. C'est-à-dire que la Garrigue est le territoire de l'entre-deux, mais qui est relié. Ce n'est pas forcément le négatif avec le positif de la ville, non. C'est un mécanisme de liaison très fort avec la ville. C'est une vision métropolitaine du territoire, de la politique régionale, qui, de manière générale, il n'y a pas à discuter si on est pour ou si on est contre. C'est une réalité, bien sûr, du territoire, puisqu'on est sur des territoires d'influence. Et donc, de manière générale, on est sur un modèle qui sépare ce territoire. Deuxième élément, une planification territoriale largement dominée par l'influence des agglomérations urbaines. Et ça, on le voit véritablement. Des découpages intercommunaux complexes, voire très complexes. Une insuffisance de la coordination, bien sûr, intercommunale, mais qui est liée aux problématiques de l'articulation entre les institutions aujourd'hui et bien sûr des actions de gestion collective nombreuses mais atomisées. Alors, de manière générale aujourd'hui, et ensuite on verra quel type de réponse on peut apporter ou quelle piste de réflexion on peut avoir, on peut dire que c'est un territoire finalement qui, quoi qu'il arrive, connaît un certain nombre de problématiques communes qui pourraient justement laisser penser l'idée de mettre en place un modèle de planification ou de gestion beaucoup plus large de ces problématiques qui ne peuvent pas bien sûr se gérer à des échelles locales, mais à des échelles beaucoup plus larges. Donc bien sûr, la forte pression résidentielle sous dépendance urbaine, qui quoi qu'il arrive a fait la richesse du territoire, on ne peut pas le nier. D'un point de vue, bien sûr, je parle socio-économique et d'intégration économique de ces espaces au modèle économique global. Et là, on ne peut pas le nier que c'est la ville qui a créé la richesse et qui crée l'emploi, quoi qu'il arrive. Mais avec un phénomène d'étalement, bien sûr, qui est réglé au cas par cas, dans l'ensemble des documents de planification, les PLU, ou mieux les SCOT, mais de manière générale, encore aujourd'hui, de manière atomisée. Et ce qui pose problème, c'est finalement d'avoir une lecture globale et transversale de ce mécanisme, plus que de savoir véritablement si à une échelle d'une commune, je vais ouvrir tant de mètres carrés à la construction ou pas. Deuxième élément, des dynamiques économiques localisées, mais non organisées à l'échelle du territoire. On fonctionne essentiellement sur des logiques qui sont en zone d'activité ou sur des projets qui peuvent être des projets de grande envergure. Ça ne signifie pas qu'on n'ait pas un projet de grande envergure à l'échelle nationale, voire européenne, sur un pôle d'activité ou d'attractivité, mais pas véritablement dans une dimension territoriale. On pourra avoir plusieurs zones d'activité qui vont être compétitives l'une avec l'autre. Et je fais toujours la référence sur une des politiques d'aménagement qui, en France, alors ce n'est pas le cas du territoire des Garrigues, mais qui montre bien cette question des effets atomisés ou non organisés de ces politiques économiques. Si un jour vous avez l'occasion de vous balader dans certaines régions peut-être plus rurales de la France, dans le Massif central, la plupart des petites communes dans les années 70 ou 80, par le biais de subventions et d'aides, ont toutes fait plus ou moins leur petite zone artisanale, c'est-à-dire un territoire aménagé avec le lampadaire, la route. Et de manière générale, on a 80% de ces zones d'activité qui sont aujourd'hui inutilisées parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux échelles dans lesquelles on veut travailler sur des territoires qui ne sont pas adaptés. Alors si je prends cet exemple de la zone d'activité, qui n'est pas forcément l'élément central du problème qui peut être mis en évidence, bien sûr, dans le territoire des Garrigues, mais c'est pour vous montrer qu'on était sur des logiques qui sont des logiques communales, voire intercommunales, et donc avec des effets de synergie et des retombées de type économique qui peuvent être beaucoup plus faibles que l'investissement qui a été alloué pour les mettre en œuvre. Et enfin, je dirais donc un recul de l'activité agricole malgré les tentatives de restructuration. Bien sûr, d'un point de vue, écologique ou environnemental, ça je ne m'y attarderai pas, mais d'un point de vue bien sûr économique, d'un point de vue des productions, qui peut être quelque chose qui, de manière générale, à l'échelle des agglomérations, pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Et je dirais que les problématiques sont communes, mais c'est surtout les effets induits par ces problématiques qui sont mal maîtrisés, et notamment une pression foncière. Alors on a parlé tout à l'heure d'une logique aussi de spéculation qui peut se mettre en œuvre, mais qui déstabilise bien sûr le foncier, mais qui déstabilise aussi les autres fonctions traditionnelles. Bien évidemment, ce n'est pas le résidentiel qui est le seul élément à la cause d'un problème de type agricole, on en est loin. Mais de manière générale, on a ce qu'on appelle une multifonctionnalité, qui est à la fois une richesse pour un territoire. On prône partout la multifonctionnalité des espaces ruraux, des espaces de type périurbain. Mais de manière générale, quand on a multifonctionnalité, on a forcément conflit ou en tout cas interrelation entre les fonctions. Et c'est vrai que la fonction résidentielle, de manière générale aujourd'hui, qui est, je le rappelle, une des premières sources de développement des espaces ruraux en France, quoi qu'il arrive, l'induction et le résidentiel est un des éléments majeurs, va rentrer en interaction avec des fonctions plutôt traditionnelles. Je pense à l'agriculture, je pourrais penser à des fonctions de type environnemental, de manière générale. Donc là, on a des effets qui, globalement, reste mal maîtrisé. Un paysage qui est simple support de dynamique est potentiellement dégradable, on l'a vu tout à l'heure. Alors quand je dis le paysage, sans rentrer dans l'approche de type écologique ou bio-environnemental, mais lorsqu'on vous dit que le territoire est un territoire qui accueille des gens pour la qualité de leur paysage, pour les représentations, etc., ben, en termes de paysage, le résidentiel, c'est du mitage, c'est des dégradations potentielles d'espace ou de paysage. Je prendrai juste comme exemple certaines côtes ou certaines hautes montagnes en France qui ont un paysage qui pouvait être extrêmement majeur, important pour l'attractivité, mais on va se rendre compte que le paysage, en tant que construit humain, en tant que construit écologique ou environnemental, c'est beaucoup plus admis, bien sûr, sur les questions environnementales et écologiques, mais sur des questions de type occupation humaine, peut se dégrader par la non-maîtrise d'un certain type de fonction. Vous vous retrouvez dans le territoire de Garrigues, si demain, c'est que du lotissement avec des maisons toutes les mêmes, avec des rues goudronnées, le paysage en tant que tel, qui peut être le support du développement résidentiel, peut être largement altéré. Et je dirais des aménités territoriales dévalorisées, c'est-à-dire qu'en termes d'aménités, au sens très général, aménités environnementales dans le sens, dans l'approche de type socio-économique, je dirais géographique dans un sens beaucoup plus large, qui est de manière générale dévalorisée, c'est-à-dire que cette dégradation du potentiel peut être au moment mis à mal par le développement de ces types de fonctions. Alors juste pour conclure, ces quelques pistes de réflexion, bien sûr, qui n'engagent que moi et qui sont bien évidemment discutables. Alors j'avais mis 4 points. Alors bien sûr, développer une démarche qualité plus transversale et cohérente, qui pourrait être bien sûr la base à la fois d'une identification territoriale et également aussi en termes de réintégration économique de certains types d'activités touristiques. Alors ça existe, les démarches de qualité existent en tourisme. Vous avez un certain nombre de labels, de reconnaissances d'un certain nombre d'institutions, mais de manière globale, beaucoup plus peut-être transversale. Développer les filières courtes, c'est-à-dire c'est un petit peu à la mode, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un espace de type périurbain où le marché est extraordinaire par rapport au potentiel et par rapport à la localisation du territoire. Je dirais s'appuyer sur des initiatives locales et les réseaux actuels et construire un cadre cohérent de gestion. Alors globalement, c'est construire un projet de territoire, mais on pourrait dire que, je terminerai là-dessus, c'est peut-être facile à dire en termes d'idées, c'est-à-dire il faut arriver à donner un cadre de gestion commun et de cohérence à ce type de territoire, mais de manière générale, ça peut se faire que dans une vision de l'articulation entre les échelles. Et là, c'est le géographe qui parle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le territoire ne peut pas être perçu comme quelque chose, c'est pas une île, c'est pas un modèle d'un îlot refermé sur lequel il faudrait revenir sur un modèle endogène. C'est-à-dire que l'idée du localisme refermé est quelque chose peut-être d'utopique, et même d'utopique, et qui ne permettrait pas le développement. Effet inverse, à côté de cette logique endogène, ce localisme qu'on voudrait retrouver par petites touches dans le secteur d'activité, dans le social, vous avez également une dynamique qui est liée à des forces exogènes, aux formes urbaines, à l'urbanisation, mais à des échelles beaucoup plus larges, sur le bassin méditerranéen, en France, etc. Et là, dans ce cas-là, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une partie du territoire échappe au commandement même de son propre territoire. Ce sont des espaces périphériques ou annexes qui gèrent et qui organisent les problématiques sur le territoire. Alors pour conclure, finalement, où se trouverait cette articulation ? C'est finalement de pouvoir articuler à la fois la reconnaissance et la valorisation de l'identité et du patrimoine local, du système endogène, qui peut être support de dynamique, mais surtout de bien l'articuler avec un mécanisme global, métropolitain, c'est-à-dire la façon de la liaison avec les villes, mais également dans des systèmes économiques beaucoup plus larges. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, qui sont des pistes de réflexion, bien sûr, et qui méritent d'être débattues. Merci.
Merci beaucoup, monsieur.